RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Time, basket time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis. Exceptionnellement aujourd'hui, un mercredi, on s'adapte à l'actualité. On a bien fait d'attendre le match 4 entre Indiana et New York. Fred Weiss, Félix Gabory et Arnaud Valadon, bonjour messieurs.
Hello, hello.
Salut,
on est toujours sur des thématiques de fin de saison. Là, on est dans l'actu pure. On va pas se casser la tête, c'est un spécial final. Nous allons parler des finales NBA et de l'Euroleague. Malheureusement, cette finale perdue par Monaco face au Fener Istanbul après un exploit contre l'Olympiakos. On ne sait pas trop ce qu'on va penser de cette performance de Monaco. Est-ce qu'aller en finale, c'est un exploit, selon vous? Ou est-ce que perdre contre le Fener, quand tu as battu l'Olympiakos, c'est une contre-performance? Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on a vécu une belle saison d'Euroleague.
Oui.
Et le Fener, qui était ton favori il y a 2 ans, a fini par gagner.
Ouais, sauf que j'avais dit que c'était mon favori aussi sur ce Final Four, hein, si tu te rappelles.
Tout à fait. Sur les finales NBA, un homme s'est mis en valeur la nuit dernière, c'est Tyrese Haliburton. Je vais vous poser une question très simple à comprendre, mais pas facile à répondre. Haliburton, est-il un joueur sous-coté ou sur-coté? Puisque ses pairs estiment que c'est le joueur le plus sur-coté de la Ligue. Dans la partie historique... Vous allez me parler des meilleurs lieutenants de l'histoire, puisqu'il y a des joueurs, des secondes options qui font des grands playoffs cette année. Et puis, dans le quiz, on ne va pas non plus se casser la tête. Hein, on va faire des questions d'actualité. Comme ça, ce sera réglé. Et d'ici là, peut-être qu'on aura calé un petit morceau pour un blind test.
C'est chaud,
hein, c'est chaud. Non, parce que je te vois un peu mou, là.
Oui, je suis un petit réveiller. Peu mou, oui. Non, je vois Félix et ça me rend un petit peu mou.
On va le réveiller. Je ne sais pas comment le prendre, Fred.
C'est plus dur quand il y a Stephen,
c'est ce que ouais, c'est ça.
Allez, c'est parti.
You think he's over it?
Who?
Tyrese.
I think he's a very good player.
Haliburton, long three.
I do think he's overrated.
He's a very good player.
Indiana 4-6, three.
Haliburton. That's not what I asked you, brother.
I just said he's a very good player.
Do you think he's overrated?
Do you?
No, he's not overrated.
I just said he's a very good player.
Well, it's a yes or no question.
No. And Jimmy Valanciunas is definitely not underrated.
Then Tyrese Haliburton. With his 15th assist.
Right there.
Alors, quand on vous pose la question, est-ce que ce joueur est surcoté et qu'on répond, en l'occurrence Charles Barkley, c'est un très bon joueur, je pense que ça veut tout dire, non, Fred? Tu l'interprètes comme moi ou pas?
Oui, je l'interprète comme toi, oui. Je pense qu'il considère qu'il est overrated.
Aujourd'hui, on va faire un débat sur un joueur en particulier en attendant le dénouement de ces finales à l'Est et à l'Ouest. Puisqu'Indiana est tout proche de la finale, désormais, il mène 3-1 face à New York après avoir gagné les 2 premiers matchs à l'extérieur. Donc, il y a quand même une belle option de prise avec un Tyrese Haliburton stratosphérique sur le match 4 à 32 points, 15 passes et 12 rebonds. Haliburton qui est pour autant capable de tout et de son contraire puisque contre les Cavs, il nous a sorti aussi un match à 4 points, 5 passes et 0 rebond. C'est un joueur qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais qui peut avoir des soirées géniales. Rappelons qu'il était considéré à la mi-saison comme le joueur le plus surcoté par les autres joueurs NBA, selon un sondage de The Athletic, où les réponses étaient anonymes. Donc on pouvait se lâcher. Qui est le plus surcoté de Basket Time, par exemple? Si je vous pose la question là, vous n'allez pas me le dire.
Félix.
Mais
pardon.
On a dit anonyme normalement.
Mais si je vous dis que c'est anonyme, peut-être que je vais avoir des réponses. Ce sondage mettait Haliburton en tête devant Rudy Gobert et Trae Young. Et donc bon, ce qui n'est pas très surprenant pour Rudy et Trae Young, hein, non pas que je trouve qu'ils soient surcotés, mais on sait que c'est des joueurs qui font débat.
Et les 2 années, c'était Rudy à chaque fois qui était premier et qui avait ce titre
voilà pourquoi
peu glorieux.
Je dis que c'est pas très étonnant. Donc, le retrouver Haliburton là, ça veut dire quelque chose. Donc, pour vous, est-ce qu'on a affaire avec Tyrese Haliburton à un joueur surcoté ou sous-coté? Qui est-ce qui démarre? Qui est-ce qui trouve qu'il est surcoté dans cette émission?
Moi, je pense que personne ne va dire qu'il est surcoté parce que vu ce qu'il est en train de faire et vu surtout le dernier match qu'il vient de faire, ce serait difficile de dire qu'il est surcoté. Par contre... Il a ce défaut.
Par contre, je vais le découper maintenant.
Non, je vais pas le découper.
Après cette petite introduction.
Non. Il peut être fantastique. Il peut être incroyable. Il a une vision du jeu qui est parfois incroyable. Il peut shooter. Il prend des shoots. Je sais pas si vous avez regardé le match. Le match qu'il fait, il prend des shoots, notamment sur le premier quart-temps. Il est loin. C'est pas forcément des bons shoots, mais il a une adresse folle.
Et il a un niveau de confiance surtout. Il a un niveau de confiance.
Il a un niveau de confiance incroyable. Mais quand il a ce niveau de confiance, justement, bah, t'es obligé de monter sur lui. Donc, il va créer plus de jeux pour les autres, etc. Donc, il est vraiment très dépendant de son adresse. Et c'est vrai que parfois, il peut passer complètement à travers. Et ça, c'est pas normal pour une superstar. Ouais. C'est ça qui fait que c'est pas vraiment une superstar. C'est un joueur extraordinaire. Et c'est pour ça que Charles Barkley le dit. Et je trouve qu'il résume exactement. C'est un très bon joueur de basket. Mais il manque de constance parfois.
Non, mais là, Fred, tu peux absolument rien dire sur les playoffs qu'il est en train de faire. Là, il met tout le monde d'accord. Je suis d'accord que sur les derniers mois, sur ces dernières campagnes, il y avait certains moments où il était un peu plus en dedans.
4 points, 0 rebond, tu peux pas faire ça.
Mais tu peux pas mettre 35 points à tous les matchs.
Faire un match à 15, ça arrive à certains.
Il met tout le monde d'accord s'il a fait des. Enfin, dès qu'il faut répondre présent, il
fait des super matchs. Je suis d'accord avec toi, Félix.
Mais par contre, clutch aussi.
Normalement, une superstar, ça a des seuils sous lesquels tu n'as pas le droit de descendre.
Voilà.
Bah, pour moi, une superstar, c'est quelqu'un qui va t'assurer, comme dit Pierre, minimum 15 points, perdre peu de ballons, faire quelques passes, et ça, c'est ton minimum. Et c'est pour ça que tu es une superstar.
Shai a fait des matchs en dessous, mais pas à 4 points.
Voilà, c'est ça.
Qui le considère comme une superstar?
Quand tu dis surcoté ou sous-coté, ça veut dire que tu lui attribues un statut qui peut aller très haut ou très bas.
Je n'ai jamais entendu revendiquer forcément ce statut.
Mais lui, non. Mais on lui a peut-être donné ce statut parce que c'est le go-to guy de cette équipe d'Indiana, qui est une très bonne équipe.
Si tu rajoutes un peu de violet sur son maillot jaune et qu'il fait le match ce soir, on dit c'est Magic Johnson. Hein,
Oui, carrément.
Bah, si tu fais points, autant de passes, playmaker un peu grand, après c'est vrai que son shoot n'est pas forcément foufou.
Il avait préparé cette.
il est capable de grandes choses. C'est vrai que. Je pense, surcoté, c'est un peu ça veut rien dire, parce que même Trae Young fait des choses exceptionnelles. Le problème de Trae Young, c'est qu'il ne va pas forcément loin en playoff.
On comprend pourquoi on dit Trae Young.
C'est un peu de la jalousie.
Mais c'est aussi un mec qui ne fait pas gagner. Et en plus, il a une grande gueule, donc il doit les agacer.
Rudy, c'est de la jalousie par rapport à son contrat. Enfin, on le sait, enfin, tu vois, c'est de notoriété, la Ligue.
Est-ce que le dribble de Rudy Gobert est surcoté? Parce qu'on a vu sa routine de dribble. Est-ce que son dribble est surcoté?
Non mais Rudy, le seul problème de Rudy, c'est son salaire en vérité. S'il n'avait pas signé un méga contrat, personne n'en parlerait. Il ferait sa carrière tranquillement sous les radars. Ouais,
c'est de la jalousie, pur et simple.
Exactement. Il fait ce qu'il a à faire selon ses qualités. Il fait pas plus parce qu'il peut pas faire plus, mais il fait pas moins non plus. Je sais pas si vous voyez.
Non mais on devient injuste avec Rudy Gobert. Là-bas,
le dernier ou l'avant-dernier, je crois, de la série contre les Lakers. Où ses coéquipiers se rendent compte en direct pendant la conférence de presse de ses stats, ils font « Ah ouais, 23 rebonds le gars ». Voilà, bah c'est ça Rudy Gobert, c'est qu'un jour il va tout arracher et puis un jour il va te mettre deux shoots de 4 points et terminé, c'est comme ça.
Parce qu'il est dépendant des autres aussi, très dépendant
des
autres.
Oui, c'est pas ton option numéro 1, ça c'est sûr, ça sera jamais, c'est sûr. Bon, passons Rudy Gobert. Donc, quel est ton avis finalement sur Haliburton ?
J'ai jamais pensé qu'il était surcoté ni sous-coté. Il est juste en fait à sa place. C'est
d'un côté, quoi.
Un très bon joueur d'une franchise qui va aller en finale NBA probablement. Avoir le match 5 à New York et le match 6 qui aura lieu à Indiana, c'est peut-être.
Ils ont deux occasions, mais en fait, ils peuvent gagner chaque rencontre.
Là, les Knicks,
ils se battent, ils sont très valeureux, mais je pense que quand même.
Ils sont sur la jante.
Sur chaque rencontre, non, mais Indiana était plus fort.
Oui,
même sur le match qu'ils ont pris à Indiana.
Oui, c'est vrai, clairement.
Les Knicks, alors on a cru un moment parce qu'ils sont revenus par deux fois, moins 6 hein, cette nuit dans le quatrième quart-temps, les Knicks.
Parce que pour le coup, mentalement, ils sont très costauds. Hein.
Mais il n'y a plus d'essence dans le moteur, à l'image de Josh Hart qui est en train de s'éteindre. Il a perdu 5 ballons. Il est moins dominant qu'en saison régulière où il pétait des triple-double à chaque match. Donc les Knicks n'arrivent pas à résoudre le problème. Siakam, Miles Turner dans la raquette où ils se font découper. Moi, j'ai vu un condensé assez large. Ça drivait à gogo. Nesmith qui est retrouvé avec ses pénétrations. Enfin, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Mathurin qui met 20 points en 12 minutes.
En fait, il y a trop d'options à Indiana. Ça qui est incroyable, c'est qu'on parlait un peu d'Haliburton qui a besoin d'être le leader, la superstar, ou est-ce que c'est une superstar, on ne sait pas. Mais il y a tellement d'options. En fait, c'est le collectif qui prime. Et là où New York, justement, se repose un peu trop sur Brunson et Kat, et qui est très dépendant de ces deux superstars, à Indiana, en fait, tu as 5-6 mecs qui peuvent scorer, qui peuvent sortir du bois sur certains matchs. Et en fait, ça devient injouable, en fait, une équipe comme ça. Et donc, collectivement, en fait, Indiana, c'est le basket. Quoi.
Et moi, je vais te parler de quelqu'un qui est sous-coté. C'est Rick Carlisle, champion avec Dallas, on n'oublie pas. Le coach qui fait jouer et qui trouve les rotations, le bon équilibre avec tout le monde de manière merveilleuse. Parce que Indiana, c'est quand même un petit marché. Alors, ils ont réussi à faire venir Siakam, qui est un énorme coup pour épauler Haliburton. Mais cette équipe, elle est plaisante à voir jouer. Et de manière générale, les équipes de Rick Carlisle, quand c'était Dallas avec Dirk Nowitzki aussi, c'était plaisant. Jason Terry et compagnie, quand ils vont chercher le titre face à Miami pour la première saison de LeBron avec le Big Three, ça jouait superbement bien au basket. Et Rick Carlisle, il faut quand même lui tirer un chapeau. Hein.
Et en plus, c'est le seul coach qui est à peu près sympathique sur ces playoffs. Ouais. Parce que, alors, je sais pas, moi ça me choque parce que.
Donc, Thibodeau, il est pas sympathique.
Moi, c'est un énorme connard de Thibodeau. Ah, c'est incroyable. Mais même quand il répond aux interviews, mais t'as envie de lui mettre une tarte dans la bouche.
C'est pas Popovic, quoi.
En fait, c'est trop, ça va trop loin. Je fais une petite parenthèse, c'est mon coup de gueule personnel. C'est que les interviews pendant les matchs, c'est super, mais vraiment, ça sert à rien du tout parce qu'ils ne disent que des platitudes, des phrases toutes faites.
Mais c'est logique.
Il faut leur donner du crédit. On va donner plus de force à notre, je sais pas, notre
Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment du match?
Non, je suis pas d'accord.
C'est ridicule.
Non, parce que les reporters, ils posent une ou deux questions techniques sur le match et ils pourraient y répondre de manière succincte. Et technique aussi, tu vois, bah, il faut qu'on améliore ceci, cela, je sais pas quoi, tel système, tel move, j'en sais rien. Il s'en débarrasse. Et le seul qui est à peu près poli, c'est Rick Carlisle. Même Marc Degnaud est détestable. Enfin, je les trouve tout. Enfin, bon, bref. Mais il devrait arrêter.
C'est terrible comme exercice aussi. T'es dans ton match, ils ont un niveau.
Donc, ne le faites pas.
Mais c'est ça, en fait, ça devrait pas être fait. En fait, ils ont un niveau de concentration quand t'es en plein match.
D'accord.
Côté coach, t'as pas envie de répondre à.
Après, c'est au milieu d'un temps mort, tu sais, où tu te avances, t'attends. Tu sais, quand tu prends un temps mort aux États-Unis, c'est pas comme en Europe où on arrive et tout le monde avec la plaquette et on dessine. C'est les coachs qui arrivent au milieu du terrain, qui laissent un peu souffler une minute les joueurs et t'as le temps mort pub, en fait. Et après, le véritable temps mort démarre et là, ils y vont. Il y a Greg Popovich. Vous pouvez regarder les meilleurs moments de Greg Popovich avec les interviews au bord du terrain et à un moment il y a une journaliste qui lui demande « Oui, vous shootez à 4 sur 22, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là il répond « On n'a pas mis dedans.
» Bon, revenons à Liberton.
Une peine à la vie, ça.
Est-ce que vous le mettez, pour mettre une sorte d'échelle de comparaison, est-ce que vous le mettez au même niveau qu'Anthony Edwards par exemple? Moi j'ai l'impression qu'il est complètement sous-considéré par rapport à Anthony Edwards.
Alors qu'il va emmener sa franchise très probablement en finale NBA.
Et pas l'autre.
Franchement, c'est une super bonne question. Très très bonne question. Parce que pour moi,
c'est pas
Anthony
totalement
Edwards,
le même poste.
C'est, alors, c'est pas le même poste, oui, mais je pense que.
Mais il y a un peu le même rôle dans l'équipe.
C'est par rapport à son aura, etc.
L'aura, l'importance,
plus
la considération.
Anthony Edwards, je pense.
Moi, surtout la considération.
C'est ça, ouais. Je plus charismatique,
c'est
Anthony Edwards.
C'est le charisme qui va faire la différence. Anthony Edwards, c'est. Il fait rêver tout le monde, quelque part. Et Haliburton, effectivement, il a cette faculté à se fondre dans un moule d'Indiana où il n'y a pas beaucoup de têtes qui dépassent. T'as Siakam et lui qui dépassent un petit peu. Et sinon, c'est plutôt tout du même niveau. Donc, c'est plus difficile dans un collectif aussi énorme qu'Indiana de dépasser vraiment.
Mais Anthony Edwards n'est pas en train de les amener en finale.
Il est pas en train
mais c'est un visage de la Ligue. Tu vois, on a créé aussi... Anthony Edwards, le visage américain de la Ligue, et Tyrese Haliburton, on l'a vu à Paris hein, quand les Spurs et Indiana se sont joués, quelqu'un de sympathique. Faut pas oublier qu'il est quand même dans Team USA cet été. Mmh. Il a peu joué, mais il est quand même dans les 12.
Il a joué plus ou moins que Tatum?
J'en étais sûr.
Il était d'ailleurs très fan des frères LeBron, Tyrese Haliburton.
Exactement.
Il s'est pris de passion pour le ping-pong et pour les frères
LeBron. Et donc, Tyrese Haliburton, il n'a pas ce même niveau de notoriété de visage de la Ligue qu'Anthony Edwards. Même si effectivement
mais au crédit d'Anthony Edwards, c'est peut-être que la conférence Ouest, même c'est pas peut-être, c'est sûrement, est plus compliquée que la conférence Est.
Évidemment.
Donc en fait, c'est plus facile d'emmener ton équipe en finale NBA quand tu sors de l'Est.
Ouais, mais là, il est un peu décevant
quand
même en finale contre OKC. Non,
t'as vu la défense d'OKC, il est tellement.
C'est la force numéro une de son équipe. Donc quand t'as une équipe comme OKC qui défend le plomb, qui a des joueurs interchangeables en défense, t'as un Caruso, t'as un Lou Dort, t'as Wallace même qui peut défendre sur lui,
Jalen
Williams, forcément. T'es ciblé.
Alors
c'est
donc,
plus difficile.
Si toi tu fais une équipe, tu prends Anthony Edwards ou Tyrese Haliburton, Fred?
Je prends Anthony Edwards.
Arnaud?
Déjà parce qu'il est plus jeune.
Anthony Edwards ou Tyrese Haliburton? Je prends Haliburton pour la capacité à générer des passes et générer du jeu.
Et toi, Félix?
Anthony Edwards quand même pour le charisme et.
Donc?
Et tout le côté un peu.
Donc,
le wawa.
Conclusion,
ouais.
Il est sous-coté. Tyrese. Bah parce que vous préférez Anthony Edwards qui
est-ce que là tu me demandes de comparer à deux joueurs et que tu le compares à un mec super
non,
fort,
mais
global, Anthony Edwards?
Globalement. Qui est... globalement vous, là, dans ce débat qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de parler d'une superstar,
mais
clairement.
Mais c'est ce qu'on dit depuis le début.
Mais moi, cette saison, Anthony Edwards, il a planté 50 points et son équipe a perdu. Tu vois, moi, je trouve que Haliburton fait plus de choses utiles à son équipe.
Tu penses que vraiment que tu peux comparer les deux équipes? Tu penses vraiment qu'Indiana, sur le roster, c'est moins fort que les Wolves, par exemple? Vraiment?
Ah non, moi, Indiana, c'est beaucoup
Indiana,
plus équilibré,
le roster,
c'est une vraie
il est
équipe.
Incroyable quand t'as Nesmith, Mathurin qui est en train de ressortir.
Nembhard.
Nembhard.
Siakam,
t'as,
Turner.
T'as un roster incroyable.
Ah oui, mais TJ McConnell. mais c'est un collectif.
C'est un collectif.
Mais pour moi, Pierrot, pour répondre à ta question, pour moi, Haliburton est en train de montrer sur cette campagne de play-off que c'est une superstar.
Donc, il est sous-côté, finalement.
Bah non, parce que moi, je le cote bien. Enfin, moi, je me rends compte, tu vois, que...
sous-côté dans sa ligue, quoi.
C'est qui le meilleur joueur d'Indiana? Siakam
ou Haliburton? Autre bonne question.
Bah, je sais pas. Moi, je sais pas.
Le niveau de Siakam est incroyable.
Pour moi, réellement, dans la constance...
Le patron, quand il faut prendre ses responsabilités, aller faire des, mettre des gros paniers en fin de match.
T'as regardé la fin de match ?
Tu te refais, là, mais refais-toi tous les matchs.
Oui, mais toute la campagne. Parlons de ce match, justement, qui est exceptionnel en termes de statistiques.
Alors, juste pour conclure, après, t'as un truc simple. Si Haliburton n'est pas bon, Indiana ne peut pas gagner.
C'est sûr. Mais si Siakam n'est pas bon, c'est compliqué aussi. Hein.
Mais pour qu'il règle, lui, le débat, il faudra qu'il soit champion. Je pense que si Indiana n'est pas champion, il restera toujours considéré comme un mec. Oui, allez, c'est bon. Il est gentil.
Des fois, ça ne suffit pas.
Donc, il sera gentil alors.
Alors, ça suffit pas quand tu t'appelles Tatum et que tu es jugé par un fan des Lakers, d'accord, ça suffit pas. Mais quand même, avoir une bague en étant l'option numéro 1.
Surtout à Indiana,
ça donne un statut.
Oui, mais en fait, tu parles de deux choses différentes. Tu parles d'avoir une bague et d'être l'option numéro 1. Ben, c'est pas Tatum donc.
Non, mais laissons Tatum de côté. Là, on parle d'Haliburton. Je pense que s'il est champion cette année en faisant ce qu'il fait là, il changera de statut, je pense.
Mais même d'aller en finale, ça serait un exploit, je trouve.
Non,
mais personne n'imaginait Indiana. Tu reprends les émissions qu'on faisait il y a un mois et demi.
Chercher les braquettes qui ont mis Indiana en finale.
Il y a un mois et demi, personne ne parlait d'Indiana. Ne serait-ce que
Boston Cleveland.
Tu marques l'histoire en étant champion, ce que n'a pas réussi à faire Monaco avec l'Euroleague. C'est notre deuxième débat.
Entre deux et 10 Milan, les Monégasques à 40 minutes d'inscrire à tout jamais leur nom au palmarès de l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes de basket. Et le premier panier, le voici pour les Turcs avec Marko Guduric en transition qui tout seul a pu attaquer le panier. Devon Hall qui va se lever devant Daniel Theis. Et ça tombe devant pour le Fenerbahçe qui prend le large à 3 minutes 30.
Lui-même, il dégage Matthews Razzle dans le corner à 3 points.
C'est bon. Le tout de Matthews Razzle. Matthew Big Shot Razzle qui permet à Monaco de revenir à 5 points.
Il se cache jamais le petit Matthews Razzle.
Akadel Tas qui va enfoncer. Il est court. Il est court, Daniel Tas. Il avait fait le boulot, il avait enfoncé son vis-à-vis.
Et c'est terminé. 70-80, le Fenerbahçe Istanbul s'impose et remporte sa deuxième Euroleague.
Alors moi je vous dis, je sais pas comment juger la saison de Monaco, parce que Monaco ce n'est plus un nouveau venu, ce n'est plus un petit pousset, c'est un des favoris de l'Euroleague en début de saison. Donc je vous pose la question, cette épopée qui a amené Monaco en finale, est-ce un exploit ou une contre-performance de perdre contre le Fener? Alors attention, Fener super équipe, il n'y a aucun souci, mais après avoir fait l'exploit quand même de sortir l'Olympiakos, la meilleure équipe de la saison, celle qui a peut-être le plus de ressources, celle qui a peut-être le meilleur joueur, et moyen, celle qui était favorite de ce Final Four. Est-ce que pour vous, vous avez de la déception de voir Monaco échouer en finale ? Félix, toi qui étais sur place.
Non, pour moi, c'est un exploit. Il ne faut absolument pas banaliser ce qu'a fait Monaco sur ce Final Four. Tu parlais de Monaco qui est favori au début de la saison. Fait partie des favoris,
mais il y a peut-être une demi-douzaine de favoris.
Exactement, l'Euroleague, c'est tellement homogène. Voilà. Mais Monaco, il faut remettre dans le contexte, c'est seulement leur quatrième saison en Euroleague. C'était leur deuxième Final Four. C'est un club qui, il y a 10 ans, était encore en Pro B. Et la trajectoire de ce club est assez extraordinaire. Et d'aller au Final Four, de battre l'Olympiakos, qui était premier de saison régulière et favori pour le titre, c'est déjà énorme. En finale, tu tombes contre Fener. C'est absolument pas. Il n'y a rien de.
Non, il n'y a rien d'infamant.
Il n'y a rien d'infamant. En fait,
mais l'occasion était belle. Hein.
Ouais, mais en fait, c'est tellement dur de gagner un Final Four. C'était que leur deuxième. Ils vont en finale. Et encore une fois, avec tout le parcours qu'ils ont eu pour en arriver jusque-là, pour moi, c'est un exploit d'avoir fait ce
Le
qu'ils
problème,
ont fait.
C'est qu'ils perdent en finale.
Ah, mais moi, je suis déçu.
Avec des joueurs qui passent complètement au travers.
Moi, je suis déçu quand je vois le contenu de la finale. Ils démarrent bien.
Merci,
et
Arnaud.
Ils se sabordent. Fin du deuxième carton, les rebonds, c'était pas possible. Et ils relancent le Fener. Le Fener qui avait un pourcentage catastrophique, mais il se retrouve devant.
Et oui,
là,
deuxième
tu sais
chance.
Très bien que si tu mets pas dedans, l'adresse, ça va, ça vient.
Ils ont des artilleurs, le Fener.
Bah, Guduric, il a fait mal. Et forcément, tu te poses la question, Mike James. Est-ce que tu peux être champion avec Mike James ? Tout formidable qu'il est, mais à un moment donné, sauver la patrie tout seul, quand tu vois ce qu'il y a autour, est-ce qu'il est tu
et quand on rentre pas un, en plus.
Est-ce qu'il est tu, c'est Alpha Diallo.
Mais après, excuse-moi, mais
c'est 5 fautes d'Alpha Diallo.
Eli Okobo aussi, même si
Eli Okobo qui passe complètement à côté.
On a plus de sympathie pour Eli Okobo que pour Mike James, qui est un sacré lascar, mais il passe complètement à côté de sa finale.
Plus que Mike James, justement. Mike James, quand même, il met 15 points, je crois, et pourcentage au shoot est pas top. Mais au moins, Mike James, il a quand même mis dedans. Il fait un gros début de match qui permet justement de mettre Monaco tout de suite devant. Mike James a pris aussi ses responsabilités en fin de match. Même si ça tombait pas dedans, les shoots qu'il devait prendre, il les prenait.
Après, quand il les prend, c'est donne-moi le ballon et vas-y, je m'en occupe.
Mais au moins, il a assumé son statut et son rôle.
Et peut-être un peu trop, tu vois.
Eli Okobo, c'est vrai que c'est là on attendait qu'il qui ont un mec pour prendre le relais de Mike James, c'est censé être Ilie Okobo, et qui malheureusement passe complètement à côté. Il a 0 sur 8 au tir, et pour avoir du coup été sur place, il n'y avait absolument rien qui tombait dedans. Il pouvait tenter à 3 points, shoot extérieur, pénétration, il n'y avait absolument rien qui rentrait dedans.
Tu sais, pour moi, qui est presque le meilleur monégasque, il y a Alpha Diallo. Alors il prend ses 5 fautes, mais même Jaïté, moi j'ai trouvé qu'il a fait un super match. Hein. Mm-hmm. Présent
il,
au rebond.
Il a eu un vrai apport. Ouais.
Il a trouvé la complémentarité de la raquette Tice Jaïté. Quand tu vois que t'as Papa Yanis ou t'as encore Moti Junas, enfin, faut qu'il restructure. Alors on annonce, je crois, Mirotić pour la saison prochaine. Ça va être un profil. Ouais.
Ça fait quelques fois qu'on l'annonce déjà, hein, Mirotić.
C'est pas bon, est-ce que c'est peut-être plus le grand Mirotić, hein,
Il a fait une grosse saison, au moins une grosse saison statistique.
Donc, voir Monaco.
Il fera toujours des stats.
Donc, ça t'apporte quand même quelque chose.
Donc, j'ai modéré un peu les propos des deux. Alors, quand Félix parle de Monaco qui est parti de la Pro B, etc., je trouve que c'est un peu illusoire. Quand t'as des fonds aussi illimités qu'à Monaco.
C'est comme si le PSG version Qatar partait en Ligue 2 et explosait tout.
Donc, c'est assez logique.
Juste en termes de budget, parce que c'est pas justement le PSG en termes de budget par rapport à l'Euroleague, ils sont dans la moyenne. Ils sont dans la moyenne. C'est pas du tout un des plus gros.
Ils ont moins de charges sociales.
C'est sûr que tu annonces 12 millions de masse salariale, c'est quasi 12 nets.
C'est pas exactement
pareil. Mais dans le contexte, c'est pas une équipe qui, en termes de budget, roule sur l'Euroleague.
Non, mais c'est ça. Alors, juste pour dire, c'est quand même extraordinaire d'aller en finale de l'Euroleague. C'est vraiment une vraie perf d'avoir battu l'Olympiakos. C'est incroyable. Ça faisait 32 ans que c'était pas arrivé, hein, qu'on soit en finale. Donc, il faut quand même pas non plus tout jeter comme ça. Alors oui, on fait pas la meilleure finale possible parce qu'on a des joueurs qui répondent pas présents. Il faut aussi se rendre compte de l'arbitrage qui a été très permissif des deux côtés, et ça nous avantageait pas parce que nous on a des talentueux plutôt que des besogneux, et c'est vrai que le Fener avait plus des grands, des ailiers puissants, et un Mike James et un Ilie Okobo, ils souffrent de cette comparaison physique. Évidemment, on est déçus parce que le résultat c'est pas celui qu'on attendait. Il faut se rendre compte que Jacek Iwiecius, c'est un coach de EuroLeague depuis quelques années maintenant. C'est sa première. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut savoir le travail qu'il faut accomplir pour arriver, pour être champion, pour gagner l'EuroLeague.
Et lui, il n'est pas serein, lui. Hein.
Et il n'est pas serein. Parce
le petit facteur chance, quand même, sur un format Final Four. Hein.
Facteur chance, il faut être performant au bon moment, et ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est une très belle saison de Monaco. On est forcément déçus, parce qu'on espérait le Graal, on espérait qu'ils allaient rejoindre Limoges, évidemment. Mais alors après, je pense que lui qui est déçu, il a un petit peu...
Tu sais que c'est un peu le cliché de l'équipe qui fait l'exploit en demi, surtout sur des formats très courts de Final Four, et l'exploit, ils l'ont fait en demi. Ils ont détruit l'Olympiakos qui, en termes de basket offensivement, s'il n'y avait pas Evan Fournier qui essayait de sauver la patrie, il n'y avait plus rien.
Bezenkov à 7 points, je crois.
Défensivement, en demi, ils ont fait un très très grand match. Ils ont été monstrueux, Monaco.
Mais alors, et là, Fred, tu vas m'expliquer un truc, c'est que... Monaco bien armé à l'intérieur, notamment depuis que Daniel Theiss est arrivé, c'était la faiblesse du Fener. C'est-à-dire que le Fener, est bon, sur l'adresse, sur les shooters, ils ont tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas dans un bon jour, eh ben, ils t'en trouvent un autre. Et ça, c'est très, très dur à contrer. Le Paris Basket, on a fait les frais aussi, Paris Basket, en quart. Et ça, il n'y a pas de souci. Sur l'adresse, en finale, ça a été Guodouric, mais ça aurait pu être un autre. En revanche... Comment Monaco n'a pas plus dominé à l'intérieur et pourquoi Daniel Theiss n'a pas eu plus de minutes ?
Alors, je pense qu'il y a eu un problème de coaching de la part de Spanoulis qui lui aussi avait beaucoup de pression. C'est quelque chose d'incroyable d'amener une équipe au Final Four déjà et ensuite en finale de l'EuroLeague.
Un coach arrivé en cours de saison.
Un coach arrivé en cours de saison. J'aurais bien voulu voir Papayanis un petit peu plus.
Voilà, 0 minutes.
0 minutes pour moi, je pense que ça se tente. Alors oui, Mame Jaïté, je trouve qu'il a été très bon sur les minutes qu'on lui a données. Et après, tu t'inventes pas un jeu collectif. C'est-à-dire que Monaco, à quel moment ils ont donné le ballon à l'intérieur dans la saison ? Ils ont joué sur les intérieurs, sur des post-ups, etc. Alors, c'est jamais arrivé.
Peut-être que je vais te dire un truc un peu naïf, mais toutes les secondes chances qu'a eu le Fener, par exemple, en n'étant pas plus fort que ça à l'intérieur, est-ce que c'est une anomalie dans cette finale ?
Non, parce que c'était souvent des ballons longs, c'est pas forcément les pivots du Fener.
Il y a eu beaucoup de mismatchs, ils ont su mettre un grand qui défendait un shooter, on l'a vu énormément, donc forcément t'écartes le grand, il est pas là pour récupérer, mais il y a eu quelques problèmes de box-out des arrières. Hein.
C'est ce que j'allais dire, c'est les arrières qui doivent faire le box-out aussi, c'est pas que les grands, et à un moment, le taf n'a pas été fait. Je te dis, il faut pas tout jeter, parce que le match est pas si mauvais que ça, c'est juste qu'à un moment, on a une équipe qui a l'expérience, qui est bien coachée, qui a envie de gagner, et surtout avec un arbitrage qui était permissif. physiquement.
Donc plutôt un exploit pour toi.
Pour moi, aller en finale. Aller en finale, ça fait 32 ans. Quand c'est un truc que t'as pas fait depuis 32 ans, c'est un exploit par définition en fait.
Et le Fener, même si c'est pas l'équipe la plus sexy sur le papier, on voyait plutôt Olympiakos Pana, c'était pour moi la meilleure équipe de ce Final Four. Je crois que Fred, tu les mettais en favori quand on avait parlé de ça. Franchement, t'as eu raison.
Ice Davis, quel chantier.
Ils sont, en fait, c'est la meilleure équipe. Faut pas oublier qu'en quart de finale, ils ont mis 3-0 à Paris sans aucune discussion.
Il y a que le match 1 qui était un peu accroché.
Mais... Et le raid de Paris, en fait, qui avait emmerdé tout le monde toute la saison par leur jeu.
C'est la seule
atypique.
Équipe qu'ils ont pas battue.
Et du coup, ils ont réussi à vraiment dérégler le jeu très spécial des Parisiens. En demi, ils sortent le Pana, qui était champion titre. Et voilà, donc en fait, c'était la meilleure équipe. Donc
Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à rougir de cette
Encore une fois, il n'y a rien d'infamant à avoir perdu contre cette équipe du Fener.
Et pour toi, Arnaud, exploit aussi ou déception quand même ?
Faut évidemment saluer le parcours, mais je suis déçu sur vraiment le contenu de la finale. Parce
les clivants, c'est Arnaud.
Ils n'étaient pas si loin.
Ils auraient pu
ils n'étaient pas si loin quand même.
Tu as prendre, t'as raison. Après, c'est ça qui me laisse un goût à
Mais surtout, même si c'est très bien, parce que Monaco est un jeune club, on ne sait pas quand est-ce qu'ils retourneront en Euroleague. En finale d'Euroleague, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc,
Le span va apprendre, ça reste un jeune club.
En fait, quand l'occasion se présente, c'est vrai qu'il faut prendre ce spot-là, parce que tu n'es pas sûr d'y retourner.
Je crois que le Fener s'est dit la même chose.
Allez, c'est un basket time donc sur ces fins de saison, sur ces finales qui nous tiennent en haleine. Et on voit pas mal en NBA notamment de second couteau sortir du bois pour aller gagner des matchs. C'est la partie historique. Tips it into the front court. Now takes it all the way to the rack with a two-hand jump attempt. And now Pippen steals the upcourt pass. Alors, vous allez me dire tout simplement qui, selon vous, est le meilleur lieutenant de l'histoire, Frédéric Weiss.
Non, il faut pas. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par moi, parce que j'ai le meilleur lieutenant de l'histoire. Ce que je veux dire, Scottie Pippen.
Évidemment.
Qui d'autre que Scottie Pippen
comme meilleur lieutenant
Alors, c'est pas l'originalité qu'on a demandé. On a demandé d'être factuel. Et factuellement, c'est le meilleur lieutenant de l'histoire. Tout simplement. Parce que
si tu nous sors une originalité, libre à toi.
Mais quelle est la définition de lieutenant?
Pas le numéro 1, le numéro 2, par exemple.
Alors vas-y.
Non, je sais pas.
Scottie Pippen.
Je pensais pas te convaincre aussi facilement.
Non, je te demande.
Scottie Pippen, c'est le lieutenant par excellence.
Oui, lieutenant incroyable, le célèbre 33 des Chicago Bulls, 6 titres NBA pour lui. Lui qui a été drafté en 87, je crois, à 5e position par Seattle. Beaucoup ça de Seattle, qu'il l'a transféré directement aux Chicago Bulls. Lui qui, quand il est arrivé en université, mesurait 1m90, 4 ans après. 2m3. Donc forcément, il a des skills, il sait tout faire. Et il a la chance et la malchance d'être apprécié par Michael Jordan. Alors je dis la chance et la malchance parce que c'est plutôt cool d'être apprécié par le dieu vivant du basket. Mais par contre, ils vous ont fait voir de toutes les couleurs. Tous les jours, il était sur son dos. Tous les jours, à l'entraînement, au repas, toujours sur son dos. À la fin de chaque entraînement, il y avait des 1 contre 1 d'anthologie entre ces deux joueurs. Et parce que justement, Michael Jordan voulait le faire progresser. Voulait faire progresser, mais pas qu'il lui fasse de l'ombre non plus. Qu'il soit son numéro 2, qu'il soit là, qu'il l'accompagne. Scottie Pippen, c'est un joueur qui est juste fantastique. Il a été 8 fois meilleur défenseur. 8 fois meilleur défenseur. Enfin, dans le meilleur 5 défensif, pardon. Ce qui est assez colossal. Michael Jordan, c'est 9 fois. Il voulait évidemment le battre aussi sur ça. Il faut se rendre compte aussi que quand Michael Jordan, après le tripit, s'arrête, prend sa retraite, Scottie Pippen, c'est 22 points, 8,7 rebonds, 5,6 passes.
Est-ce qu'il aurait pu être un numéro 1 ?
Il est numéro 1 parce qu'il gagne 55 matchs.
Oui, mais il n'est pas champion.
Il gagne 55 matchs cette année-là.
Il est vieux.
Il est 3e au vote de MVP. Et encore, tu sais pourquoi il est 3e ? Parce que je ne me rappelais plus de cette histoire. En janvier de cette année-là, il sort un flingue en sortant du restaurant. Donc forcément, ça l'a fait rétrograder dans la hiérarchie. Et il finit 3e sur le podium du titre de MVP.
Derrière qui tu les as ?
Quelle
année ?
Non, en 93-94. Alors j'avoue, je ne les ai plus. Mais il arrive aussi cette année-là à faire de Grant et de Armstrong pour la première fois des All-Stars. C'est-à-dire qu'il fait mieux jouer son équipe aussi.
Ça, oui, il y a du Hakim, je pense.
Barclay. Oui, c'est possible. Barclay, c'est des mecs qui sont tout à fait possibles. Et donc, ce joueur a été incroyable. Il a été un lieutenant. Parfois, ça a été dur pour lui à vivre parce que lui, il aurait voulu être numéro 1. Bon, après, on sait qu'il est parti à Portland. C'était plus le Scottie Pippen de cette époque-là. Il est passé par Houston, ensuite par Portland. Mais un joueur fantastique, Hall of Famer, membre de la Dream Team, joueur incroyable sans qui les Chicago Bulls n'auraient jamais gagné.
Mais est-ce que son héritage finalement est dû à lui ou à Michael Jordan ? C'est ça la question.
Son héritage, jamais... c'est la détestation de Michael Jordan. Hein.
Son héritage, oui, c'est qu'il déteste
Parce
Michael Jordan.
Parce qu'ils ne s'entendent plus. Hein.
Ils s'entendent plus.
Dans
pourtant,
The Last Dance, t'as vu.
C'est lui qui l'a intronisé au Hall of Fame. Il a demandé que ce soit lui qui l'intronise au Hall of Fame, parce qu'il a été, justement, l'année précédente.
Il y a beaucoup de ressentiments chez Pippen. Hein,
oui,
aujourd'hui.
Beaucoup de ressentiments, parce que joueur fantastique. J'ai même lu une déclat qui était incroyable de Bill Walton qui disait « C'est sans doute, après Michael Jordan, en 93, hein, le meilleur joueur de la Ligue. Mm-hmm. » Bon, peut-être Karl Malone, et encore, c'est pas sûr.
Cherchez le classement, 93-94. Numéro 1, Hakeem Olajuwon du MVP. Numéro 2, David Robinson. Numéro 3, Scottie Pippen. Shaq et Patrick Ewing.
Très bien. Arnaud, de quel lieutenant veux-tu nous parler ?
Clay Thompson. Alors, je suis un peu mal à l'aise avec l'expression lieutenant, parce que je dirais plus limite colonel. T'as un général,
ouais,
et c'est le colonel.
Je suis pas mal à l'aise, parce que c'est le numéro 1,
c'est Steph, parce que c'est tout. Au final, on voit que c'est plus des duos. Alors, t'en as un qui est toujours un peu plus au-dessus que l'autre. Alors, j'ai choisi Clay Thompson, 4 fois champion NBA, et surtout tellement indissociable de Stephen Curry, qui restait le patron. Alors, vous allez me dire, il y a l'intermède Kevin Durant, mais c'était tellement... Ils marchaient tellement ensemble, et surtout Clay...
L'intermède a duré longtemps, et Kevin Durant a été un peu important, hein.
Absolument, mais tu vois, ça a un peu basculé le côté lieutenant, parce que tu pourrais dire, mais est-ce que c'était pas Stephen Curry, le lieutenant de Kevin Durant à un moment ?
Clairement, c'est pour ça que
et en fait, pourquoi j'ai pris Clay ? C'est parce que c'était lui qui était sur la défense de tous les meilleurs joueurs d'en face. Mm-hmm. Il s'est coltiné Kyrie Irving. D'ailleurs, sur le show de Kyrie Irving en 2016, qui défend ? Bah, c'est pas Clay, c'est Stephen qui est dessus sur le tir de la gagne qui permet aux Cavs de gagner. Il défendait sur Lillard, il défendait sur Russell Westbrook. Il avait mis ses 40 points sur une des plus belles séries des années 2010, justement Golden State OKC. C'est 158 matchs de playoff, la moitié à plus de 30 points de moyenne pour Clay Thompson. C'est en gros, hein, c'est moyenne, c'est du 20 points, 40% à 3 points. Fidèle, alors c'est vrai que des fois, on l'a un peu tensé sur son adresse en playoff, est-ce qu'il se cachait et tout, mais il y avait sa défense. Défensivement, c'était une machine. Et je vais vous faire écouter Stephen Curry qui parle de Clay Thompson qui vient de partir pour Dallas.
What's going to be more awkward? Having LeBron as a teammate for an extended period of time or not having Clay Thompson as a teammate?
No, not having Clay, man, it still hasn't really sunk in.
On lui demande qu'est-ce qui va être le plus bizarre, plus voir LeBron ou de plus avoir Clay comme partenaire, et là il dit franchement c'est Clay, j'ai toujours pas digéré. C'était dur pour Stephen Curry de se séparer, à juste titre on a fait des débats, mais tellement indissociable en fait, et c'est ça que je retiens dans le côté lieutenant et Steve Fred, là aussi avec Pippen, c'est le côté on peut pas parler de Jordan sans Pippen et de Pippen sans Jordan, et c'est un peu la même chose pour Clay.
Ouais, elle était assez sympathique cette équipe de Golden State en playoff quand même, mais c'est dommage qu'il soit blessé.
Oui.
J'aurais voulu voir ce que ça donne.
Deux saisons blanches.
Ça va aller au bout, mais bon. Deux saisons blanches, Clay.
Pour Clay, ouais.
Alors, qui est ton super lieutenant, toi, Félix ?
Moi, j'ai pris Dwayne Wade.
Là, il va falloir que tu me convainques, parce que pour moi,
je trouve
que
c'est une insulte. Hein.
D'entrée de jeu, t'es hors sujet.
Je vais argumenter. Déjà, Dwayne Wade, on va s'intéresser à une période très précise, parce qu'il n'a pas toujours été lieutenant. Là, il a été lieutenant, du coup, dans le fameux Big Three de Miami, avec Bosch et LeBron. Il était évidemment le lieutenant de LeBron James. Entre 2010 et 2014, il y a 4 finales. Il y a 2 titres en 2012 et 2013. Il y a aussi 27 victoires consécutives en 2013. C'est la deuxième plus longue série de victoires de toute l'histoire de la NBA. Quelques stats un peu pour montrer son niveau de lieutenant. Sur cette période, il tourne à 22 points de moyenne et presque 5 passes en saison régulière. Il a été élu 3 fois dans le top 10 du MVP en saison régulière, 3 fois sur 3 années de suite. Pour un lieutenant, c'est quand même pas mal. Évidemment, il est primordial en play-off. Il est à plus de 20 points de moyenne en post-season sur cette période. Il y a plusieurs matchs à 25 points en plus en finale lors des 2 titres en 2012 et 2013 contre OKC et les Spurs. Et là, justement, où Pierrot, où c'est un lieutenant ultime, c'est pour moi dans sa capacité à avoir accepté ce rôle de lieutenant alors qu'il était franchise player avant. Parce qu'avant l'arrivée de LeBron James, le Heat, c'était sa franchise, une franchise qu'il avait fait gagner. Ils ont été champions en 2006, seulement 3 ans après sa draft. Quand même une sacrée performance. Pour se rendre compte de son niveau, il était à 28 points de moyenne sur ses playoffs en 2006. Il va chercher la bague avec plus de 34 points de moyenne en finale contre les Mavs. Il est évidemment élu MVP des finales. Bref, du coup, quand LeBron arrive, on est sur un franchise player qui a mené sa franchise au sommet, un mec qui est top 3 du MVP en 2009, un an avant l'arrivée de LeBron, et qui accepte de devenir le second rôle dans un seul but, gagner une bague. et passer à la postérité encore un peu plus.
Mais quand tu dis il accepte de passer second rôle, je suis pas tout à fait d'accord hein, quand même. Hein.
Pourquoi ?
Parce qu'il était autant numéro un que LeBron James, qui est la méga star. Donc médiatiquement, en termes d'aura, il est au-dessus, bien sûr. Mais je sais pas si sur l'influence sur les matchs, il y a pas égalité.
Il est clairement deuxième option quand tu regardes. Même le nombre de shoots pris, quand j'ai regardé sur toutes ces campagnes de playoffs, en termes de shoots pris, c'est clairement LeBron qui est la première arme offensive.
J'ai regardé parce que je m'étais dit, est-ce que pour ce débat, je ne prends pas LeBron James comme meilleur lieutenant pour troller totalement ? Et effectivement, LeBron est largement au-dessus, tu vois, dans les moyennes de points. LeBron est quasiment à 29 et le deuxième est à 22. Mais je trouve que c'est dur de dire Dwayne Wade lieutenant, tellement il représente beaucoup. Et je trouve que quand je me remémore cette période-là, c'était lui l'âme de l'équipe, le cœur de l'équipe. Alors c'est vrai que statistiquement,
exactement, très bon argument.
Tout à fait raison.
Et quand LeBron choke, il y en a un qui choque pas. Hein.
Voilà,
c'est
aussi,
justement Dwayne Wade.
Non, mais il y a aussi un vrai switch après les premières finales où en fait, ils acceptent que, où clairement la hiérarchie est bien plus claire.
Chris Bosh est un peu plus important aussi.
Là, où la hiérarchie devient plus claire après pour les finales 2012-2013, là où ils gagnent, après la défaite en 2011 contre Dallas, alors tout le monde les voyait favoris. La hiérarchie est devenue plus claire et là après, il est passé dans un rôle de vraiment de lieutenant. C'est la définition de lieutenant, ouais, alors, c'est Wade.
Je trouve ça super dur parce qu'on a un franchise player qui et quand je pense à Dwayne Wade, je pense pas à un lieutenant en fait.
Mais sur cette période-là,
autant Chris Bosh s'est mis dans ce rôle-là, autant Dwayne Wade pour moi avait toujours cette âme de leader en fait.
C'était deux numéro un.
C'était sa franchise, tu vois. Ça a toujours été sa franchise.
Et surtout, lui avait déjà gagné. Donc c'est-à-dire qu'en gros, t'accueilles un mec en disant moi j'ai déjà gagné. En fait, ça me fait penser, c'est comme si tu disais que Steph Curry est un lieutenant de KD en fait.
Mais justement, je trouve ça différent. J'allais en parler de ça.
Je trouve que ça peut pareil.
Justement, en fait, là, je trouve que ce que tu décris, Pierrot, et ce que tu décris aussi, Fred, c'est ce qui s'est passé avec les Warriors, avec Steph et Durant. Où là où Durant est arrivé, mais ça restait quand même la franchise de Steph Curry. Pour le coup, vraiment, même si c'est Durant qui a MVP des finales et qui marquait plus de points, tu savais que l'âme de l'équipe, c'était Steph Curry.
Eh ben, je suis d'accord avec toi, pour moi, l'âme de l'équipe, c'était
Miami. Non, Miami, c'est le clair leader, c'est LeBron James.
Le clair leader, c'était LeBron James, l'âme de l'équipe, c'était
Dwayne Wade. Et autre cas d'école, est-ce que vous en sortez un sur le Big Three de Boston, Ray Allen, Paul Pierce, Garnett, est-ce qu'il y avait un leader, un mec qui a écrasé les autres ou pas? Enfin, qui a écrasé.
Pas leader, mais c'était la franchise de Paul Pierce.
C'était la franchise de Paul Pierce. Mais
leader vocal, c'était Garnett. Pour le coup,
il parle tout le temps.
Oui, non, mais
si t'aimes la logorée, oui, bien sûr, c'est un leader.
Donc, il n'y a pas forcément un leader quand une équipe est construite de la manière dont a été construite celle de Miami.
Si, alors il n'y a pas de leader, mais il y a des gens qui se mettent un petit peu en retrait. Il y a des joueurs qui se mettent en retrait. Chris Bosh se met en retrait. Pour moi, Dwayne Wade et LeBron, ils sont en égalité.
Et alors, Kobe Shaq ?
Shaq ? Il n'y a aucun problème.
Shaq. Non, c'est la fou. La franchise de qui, même si Shaq était là avant.
Non mais franchement, très bonne question sur Shaq. Pour moi, le leader, c'est Shaq. Mais est-ce que tu peux dire que Kobe, c'est un lieutenant? Un lieutenant non plus, en fait. Oui.
Si, sur les trois...
C'est pas un lieutenant à proprement parler. C'est un joueur qui est un bis, mais qui n'est pas vraiment un lieutenant.
Donc, j'avais raison de douter de la formulation de lieutenant.
Alors, Fred, je t'annonce que c'est l'heure du quiz.
Oui.
Vous avez été très bon dans ce débat. Alors, de toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz. Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
C'est la Watt
que je préfère.
Et c'est quoi ça?
Jean.
Oh
dis.
Pardon.
Non, mais alors. Je suis d'accord.
Jermaine
O'Neill.
Il y a Nicolas. Russell Westbrook. Ah, ok, si. Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Il se passe des trucs des fois dans ce quiz. Hein.
C'est fou.
Alors, nous allons démarrer par un blind test qui n'était pas prévu. Ce blind test vous est donc offert par ChatGPT. Alors, je n'ai pas compris les réponses, donc je ne peux pas trop vous expliquer.
Donc, comment veux-tu qu'on trouve une réponse?
Non, là pour le coup, l'intelligence est vraiment artificielle, là, pour le coup. Donc, on y va. Premier extrait.
Amel Bent.
Alors, Amel Bent, je ne sais pas si c'est Félix ou Arnaud.
Moi, je pense que c'est moi.
Vous écoutez vraiment de la merde.
Moi,
les mecs sont rapides sur Amel Bent.
Félix, alors pourquoi Amel Bent, affirmation de soi face au jugement des autres. Sur le débat Liberton, c'est ça?
Ok.
Un truc dans le genre. Deuxième extrait.
France Gall,
bien sûr.
Que
quand même.
Tu existes.
Oui, je te vois lever les yeux au ciel, Fred. Là, tout le monde l'avait, celle-là.
Partout.
France Galles, encouragement à ne pas se laisser écraser. Voilà, super. Merci.
Ah oui, mais c'est vraiment énormément pourri.
Oui, c'est assez naze, ouais. J'avoue. C'est pas grave, on s'amuse avec un blind test. On s'amuse toujours. Troisième extrait.
Sia
et David Guetta, Titanium, résister aux attaques et aux critiques. Donc Arnaud, tu vois sur ce.
Donc viens prendre 2 points.
Blind test chat GPT, t'es bon. Hein. Ok, allez, on avance avec les questions basket. Une petite rafale de questions sur les stats en playoff, qui n'est pas facile. Hein. Attention. Ali Burton, meilleur passeur des playoffs, avec 9,4 passes de moyenne, un peu plus même. Qui est deuxième de ce
classement ?
Ni Cunningham, ni Jokic.
Tatum ?
Non plus. Vous n'avez pas pensé à lui alors que quand je vais vous le dire, vous avez trouvé ça évident. Shai non plus.
Brunson ?
C'est pas Brunson. Il est déjà éliminé, je vous donne un indice. Il est éliminé.
Il y avait qui comme franchise dans ce...
C'est ça, moi aussi, je suis en train de...
Donc on a Haliburton premier et...
Doncic,
non.
LeBron ?
Non.
Ouais. Harden ?
Harden, voilà.
Ah,
eh oui, personne pense ni parle de James
Harden. Barbu, ouais.
Ils ont tellement choqué aussi, eux, là.
C'est vrai.
Ah, j'étais déçu. Hein. Je les voyais beaux.
Hein. Ouais, moi aussi. Ouais.
Alors ensuite, quel joueur, ça c'est assez intéressant, quel joueur marque le plus de points sur seconde chance dans ces playoffs ?
Siakam ?
Qu'est-ce que t'as dit ?
4
Excellent, Arnaud. Arnaud est en feu.
Chaud bouillon. Hein.
C'est Karl-Anthony Towns qui est à 5 points sur les secondes chances en moyenne et est assez nettement devant. Et enfin, troisième question statistique, qui a inscrit le plus de tirs à 3 points lors de ces playoffs en nombre, hein, en
Brunson,
nombre de 3 points.
Derrick White ?
C'est Brunson.
Brunson.
Non, c'est pas Brunson, pardon.
Excusez-moi. Sports,
Derrick White ? Haliburton ?
Pardon ?
Haliburton ?
Non.
Derrick White ?
Non.
SGA ?
Non. C'est pas Brunson, mais les deuxièmes, en fait.
On peut me donner un demi-point, du coup ?
Non.
La question, c'est le plus de 3 points en moyenne ?
Nombre de 3 points inscrits. Anthony Edwards, oui, c'est
Edwards.
Exactement. 45 pour Anthony Edwards. Alors, on a parlé des lieutenants qui sortent du bois. Jalen Williams a fait un match fantastique avec OKC face à Minnesota. C'était le match 3 ou 4, je ne sais plus.
Match 4, là.
Peu importe, on va faire un vrai ou faux sur Jalen Williams. Vrai ou faux sur Jalen Williams, il en sourit d'avance, Arnaud.
J'ai peur.
T'as peur, mais tu fais bien. On démarre avec Fred. Ses baskets préférées, c'est les Adidas Samba.
Non, c'est faux.
C'est vrai. Félix, il a le même portefeuille depuis la 6e.
C'est vrai.
C'est vrai. Il prétend qu'il n'est pas trop show-off, que s'acheter des objets très chers, ça ne l'intéresse pas.
C'est juste la carte qui ne vaut plus la même chose.
Voilà, la carte qui est intérieure. Et quand tu vois comment il est sapé, le discours n'est pas très crédible. Arnaud, son parfum, La Nuit de l'Homme d'Yves Saint-Laurent.
C'est faux.
C'est vrai. Tout ça est parfaitement vrai. Donc, il n'y a que Félix qui a marqué un point. Sur les questions basket, vrai ou faux, Jalen Williams a déjà inscrit, Fred, 3 triples-doubles en seulement 3 saisons.
C'est faux,
il en a fait 0 jusqu'à présent. Félix, donc c'est un point pour Fred. Félix, son record de points sur un match, c'est 50.
C'est faux,
c'est 41 contre les Spurs en mars 2025. Et Arnaud, il a terminé deuxième du classement rookie de l'année 2023 derrière Paolo Banchero.
C'est faux,
et sixième, le deuxième c'était
2023, Cade ?
Bénédicte Mathurin.
Non, c'était
donc un point de plus pour Arnaud, ça fait 5 pour Arnaud, 4 pour Félix, 1 pour Fred. Une charade facile. C'est un joueur qui joue une finale de conf, qui est encore en course là. Mon premier est le Guépard, mon second a raison, et mon tout donc est pas loin de prendre la porte. Vous avez des références cinématographiques
si, moi je l'ai.
Ou pas ? Ah, tu l'as ? Normalement, il suffit.
Dylan Wright ?
Voilà, Dylan Wright, exact.
J'avais Alain en premier.
Alain, oui, il n'y avait pas d'Alain là.
Alan Houston.
Donc on est à 6 pour Arnaud qui fait cavalier seul en tête, 4 pour Félix et 1 pour Fred. Devon Hall du Fener, il est passé par quelle franchise NBA ?
Brooklyn.
Vous le savez ou pas ?
Les non. Cavs.
Houston ?
Non.
Sacramento.
Indiana ?
Non, Indiana, Sacramento.
Portland ?
Non, Portland, non.
C'est Chicago.
New York.
Chicago, New York, non.
Washington.
Charlotte.
C'est à l'ouest. C'est à l'ouest.
Houston.
Portland.
Non plus.
Spurs.
Non.
Lakers. New Orleans.
Phoenix.
Non.
OKC.
Voilà, Arnaud, tu vois, à force d'insister, vous l'avez trouvé.
Au bout de 20 tentatives sur 30.
Je vous donne une série de joueurs, une série, et vous me dites de quoi il s'agit, de quoi je suis en train de vous parler. C'est parti. Mike James. Nando De Colo.
Meilleur
MVP
de
et pas
de l'histoire de l'Euroleague.
Il y a la bonne réponse, mais c'était...
Meilleur scoreur de l'Euroleague.
C'est ça, et c'est toi, Fred, qui est parti en premier. Bravo. Vassilis Spanoulis, c'est troisième de cette liste. Ah tiens, chacun votre tour, vous allez me donner un des joueurs qui sont dans la All-NBA First Team 2025. Frédéric.
Jokic.
Jokic, évidemment. Félix.
Shai.
Shai, évidemment. Arnaud.
Oh là, je ne me rappelle. Ah ouais, je m'en rappelle.
Ah non, mais si, quand même.
Oui,
oui. Mais qui ?
Oh.
Alors, vous êtes dans un podcast basket ou
Tatum
pas ?
Tatum ?
Bah oui, mais fallait le laisser à Fred, enfin. C'était ça le jeu, il fallait qu'il lui donne à la fin. Mais c'est pas grave, ça te fait un point quand même. Fred ?
Giannis.
Giannis, c'est bon. Félix ?
Du coup, il reste un, le cinquième.
Reste un.
Kate Cunningham ?
Non. Est-ce que tu l'as, Arnaud ?
Troisième équipe, Kate Cunningham.
Un meneur, du coup. Luca ? Non.
Non. Fred, est-ce que tu l'as ? Franchement, vous devriez l'avoir.
C'est pas possible. Je l'ai vu 50 fois.
Bah oui. Mais c'est normal que
Brunson ?
C'est... Non. Félix, tu l'as pas ? Toujours pas ? Alors, au plus rapide, c'est la meilleure équipe de la saison.
Ah, si, Donovan Mitchell.
Donovan Mitchell,
ah,
oui.
C'est pour... On les a bien enterrés.
C'est pas la meilleure équipe de la saison.
Non,
c'est Casey.
Ah, pardon. Ils finissent pas en tête.
Non, ils finissent deuxième.
On les a bien enterrés.
Mauvais indice, mais quand même, personne n'a pensé à eux.
Donc, mauvaise réponse. Mauvais indice, mauvaise réponse.
J'ai mon point.
Et qui est le meilleur sixième homme ?
C'est Mathurin ?
Non.
Un meilleur sixième de l'année ?
Pritchard.
Pritchard, oui.
Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse, mais accélère.
Mais non, meilleur sixième homme, ça pouvait dire le premier dans la seconde team, en fait.
Non, c'est pas ça.
Bah...
C'était pas ça la question. Je suis désolé, hein. Donc ça peut pas être la réponse. Donc on est à 7 points pour Félix, on est à 8 points pour Arnaud et 4 points pour Fred. Tiens, une petite déclaration, vous n'êtes pas obligé de me donner son nom, sa fonction suffira. Qui vient de déclarer « Je pense finalement que nous serons au complet ».
Le GM de Casey ?
Non.
De Denver ?
Non. C'est pas en NBA.
C'est un... C'est
qui GM de USA Team Grand Hill
Non. C'est Félix qui est le plus proche.
Sélectionneur de...
C'est pas un
sélectionneur de la Slovénie ?
C'est pas un sélectionneur et c'est pas la Slovénie.
C'est Monaco ?
Non. C'est pas un sélectionneur et c'est pas la Slovénie. Donc c'est un...
Babak.
C'est pas un sélectionneur, donc c'est un coach ?
Un GM ?
Non, encore plus
haut. Ah, c'est Freddy Fautou ?
Non. Président de la fédération... Pas slovène, du coup.
Pas slovène, du coup.
Président de la fédération française de basket.
Serbe. Ce qui veut dire que... Jokic devrait y aller.
C'est possible.
C'est ce que ça veut dire.
Ça dépend. Il a dit qu'il allait boire des bières d'abord.
Du coup, tu égalises, Félix. Bravo. Il nous reste la question multipoint. Elle est hyper dure. Oh, elle est abominable. Et je pense qu'elle est pour Fred, normalement, vu l'historique de ce podcast. Le Fener est champion, donc remporte l'Euroleague pour la deuxième fois. Après 2017, vous allez me donner les joueurs de 2017.
Ok.
Je pense que... Tu dois en avoir quelques-uns.
Ouais.
Parce que je pense même que tu commentais l'Euroleague à ce moment-là, non ?
Possible.
Alors, c'est toi qui commence en plus, Fred.
3.
Non. Un par un, vous m'en donnez un.
Stoukas.
Ou alors on fait aux enchères,
c'est pas bête.
Ouais, on fait aux enchères.
Non, Stoukas, c'est bon. Allez, on fait un par un. Stoukas, c'est bon. Félix. C'est dur, hein ? C'est dur parce que c'était il y a 8 ans quand même. Après, il y a beaucoup de mecs connus et beaucoup de mecs d'Euroleague très forts.
Est-ce qu'il y a déjà De Colo ? Il était déjà.
Non, pas De Colo. Arnaud.
Ouais, j'avais De Colo aussi.
Dommage. Par contre, on enchaîne. Hein, parce que Fred, il va revenir, il va remonter. Hein.
Non, mais je laisse à Fred. Là,
Laissons à Fred pour les enchaînes.
Vas-y, Fred.
Vézeli, c'est bon. Oui, allez, vas-y, gagne-moi ce quiz.
Non,
Fred.
Après.
Si, tu les as.
Gudurić, il était déjà là.
Non.
Si, il est là.
Non, il ne joue pas la finale en tout cas.
Ah, il ne joue pas la finale.
En tout cas, il ne joue pas. Ensuite. Je te laisse, vas-y, il y a que toi qui peux les trouver, les autres,
c'est des 8 ans.
Alors, je vous les donne, Bobby Dixon,
oui.
Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic, Ekpe Udo, Melima Mutoglu, déjà là, Pero Antic, Anthony Bennett, James Nunali, Ahmed Deviroglu et Gigi Datome.
Gigi, j'ai honte.
Donc, je sais pas, je peux pas vous départager, tant pis, vous faites match nul, Félix et Arnaud, à la semaine prochaine.
Merci.
RMC Basket Time.